Bonjour, nous sommes en formation d'assistante service social et d'éducateur spécialisé en deuxième année à l'IFTS des Chirolles. Nous nous sommes réunis autour de ce sujet omniprésent au sein du travail social, le partage de l'information. À la question de la table ronde, le partage de l'information, une nécessité, mais quelle posture éthique du travailleur social et quelle prise en compte de l'usager, nous introduirons notre réflexion par un pêle-mêle de questions, développées ensuite comme piste de travail.
Mais un secret, c'est pas fait pour ne pas être partagé ?
Secret partagé ou secret propagé ?
Une carte d'identité, un post-it, tout ça sur un bureau. Sur le post-it, VIH+.
Tout savoir sur quelqu'un, n'est-ce pas l'enfermer dans son histoire ?
Tout savoir de quelqu'un, n'est-ce pas avoir du pouvoir sur lui ?
Yodas, information ouverte des assistants sociaux ?
L'usager au cœur de nos pratiques professionnelles, nous dit le Conseil général. Telle est la base de notre travail. Pourtant, prenons-nous le temps d'y réfléchir ? D'un côté, il y a la loi. De l'autre, la réalité du terrain professionnel et l'éthique professionnelle de chacun d'entre nous. Chaque professionnel a des pratiques différentes, mais le fond devrait rester le même. Pourtant, de nombreux exemples que nous avons rencontrés nous ont interpellés. Peut-on tout écrire dans un rapport social ? Peut-on partager des informations avec un collègue sous le seul prétexte qu'il partage lui aussi le secret professionnel ? Doit-on connaître le passé de quelqu'un pour travailler avec lui ? Ne peut-on pas travailler avec quelqu'un sans tout connaître de sa vie avant même de le rencontrer ? La question du respect de l'usager dans le partage des informations nous semble au cœur de ce débat. Et veiller à ce respect nous demande à tous une grande rigueur professionnelle.
Pour pouvoir partager une information dans de bonnes conditions, il est nécessaire d'avoir une rigueur et une éthique professionnelle et de se demander avec qui, comment et dans quel but le fait-on. On partage parfois des informations sans savoir à qui l'on s'adresse. Que va faire l'autre de ces informations ? Est-il soumis ou pas au secret professionnel ? L'habitude induit-elle une baisse de vigilance, une banalisation du partage de l'information ? Le contexte dans lequel on partage une information a une incidence sur son contenu. Il nous semble également important de faire la distinction entre le fait objectif, l'analyse et l'interprétation que l'on peut en faire. Le partage d'informations demande une grande discipline, parfois difficile à tenir, et d'autant plus difficile que l'on peut travailler avec d'autres professionnels qui n'y accordent que peu d'importance. En lien avec ces réflexions, l'informatisation sur Yodas des dossiers sociaux, contenant notamment rapport social et budget, nous interroge. Aussi, nous nous sommes posé différentes questions. Lorsque nous saisissons un dossier social sur Yodas, avec qui partage-t-on l'information ? Avec toutes les assistantes sociales du département. Comment le fait-on ? En un seul clic. Dans quel but ? Pour des raisons de rapidité et de statistiques affinées. En quoi le fait d'avoir trop d'informations sur une personne, avant même de la connaître, peut influencer notre comportement et stigmatiser la personne ? Toute information n'est pas forcément bonne à dire, encore moins à écrire. L'écrit reste et peut figer une personne dans une situation qui n'est plus d'actualité. Que devient le droit à l'oubli ? Une question se pose, est-il nécessaire ou pas de lire un dossier avant de rencontrer un usager pour la première fois ?
Cette notion de nécessité nous semble primordiale. Certes, certaines informations nous sont nécessaires afin de pouvoir ajuster au mieux notre accompagnement de la personne. Mais il arrive que l'on nous transmette des informations confort, informations qui ne sont pas indispensables pour assurer notre prise en charge, mais qui rendent plus simple notre travail, la connaissance d'une pathologie, les détails d'une histoire. Plus grave, il arrive que l'on soit au courant d'informations people, les détails glauques d'une situation, les petits scoops sur un usager échangé autour de la machine à café. Nous avons l'impression que ces informations ne servent plus à l'accompagnement des personnes, mais à satisfaire la curiosité des différents professionnels. Il nous semble important de souligner aussi que le fait de partager ou non des informations reste un enjeu entre différents partenaires. Enjeu de pouvoir, de prestige, de négociation. De plus, cela engage la responsabilité du professionnel qui livre une information nouvelle. En effet, certaines informations sont parfois très difficiles à partager. Il arrive que l'on soit au courant de choses que l'on aurait préféré ne pas savoir, qu'on a surpris dans une conversation ou on a été témoin d'une scène par hasard. Que devons alors nous faire de ces informations? Comment déterminer la nécessité de les partager? Avec qui? Comment savoir si la parole reçue doit être transmise en tant qu'information ou gardée comme un secret? On sait que le partage de ces informations peut se révéler lourd de conséquences. Une certaine peur de la révélation se fait alors sentir et on est très mal à l'aise quant à ce qu'on va, ce qu'on peut, ce qu'on veut répéter. Il nous est alors parfois difficile d'engager notre responsabilité. Face aux différents sentiments que nous font vivre ces révélations, notre réaction est-elle toujours adaptée? Parfois, le fait de partager une information n'est-il pas seulement un moyen de nous en décharger, d'évacuer ce sentiment de mal-être?
Néanmoins, à l'ère du travail en équipe et du travail en partenariat, le partage d'informations est une nécessité. Le partage d'informations entre différents professionnels peut permettre d'appréhender une situation dans sa globalité grâce au croisement des compétences de chacun. Il peut également permettre une meilleure cohérence des interventions des différents partenaires autour de la personne. Lors des instances, il aide également à la prise de décision. Le partage d'informations entre le secteur social et le secteur psychiatrique nous semble être une absolue nécessité pour des personnes présentant des pathologies psychiques. En effet, malgré les sollicitations du travailleur social, il n'est pas rare que ces personnes refusent d'aller voir un médecin psychiatre. Seul interlocuteur de ces personnes fragiles, le travailleur social a de ce fait un rôle fondamental à jouer. Comment accompagner ces personnes en respectant leur rythme et en tenant compte de leur rapport précaire au monde? Pour que le travailleur social ne risque pas d'aller à l'encontre de l'objectif visé, il est important, nous semble-t-il, qu'il puisse bénéficier de l'éclairage d'un psychologue sur la situation. Le partage de l'information, lorsqu'il est fait uniquement dans l'intérêt de la personne, est un enrichissement à l'accompagnement.
Nous finirons par une citation de Paul Lombard. Une société qui ploie sous les secrets se sclérose. Une société où l'individu n'a plus de secrets bascule dans le totalitarisme. Enfin, nous vous poserons une dernière question. Est-ce que nous accepterions que l'on en sache autant de nous? Nous vous laissons la parole.
Bien, merci aux étudiantes pour cette brillante intervention qui nous propulse au cœur des débats. Effectivement, c'est autour de ces questions que nous avons construit la table ronde de cet après-midi. Alors, je vous le rappelle, le développement des dispositifs, le développement des missions spécifiques, la multiplicité des acteurs auprès des personnes en difficulté, complexifie l'intervention sociale et exige effectivement une réflexion permanente sur le partage de l'information et le positionnement éthique et professionnel. Alors, je remercie donc Magali Fabre d'avoir accepté de participer à cette table ronde, ainsi que Jean-Pierre Martin, oui, Lucien Piola et Alain Villa. Voilà. J'en profite aussi pour remercier les collègues travailleurs sociaux issus des différentes institutions qui se sont joints à nous dans cette préparation et qui nous ont enrichis de leur réflexion. Alors, je reviens à nos invités en leur demandant rapidement de se présenter. Ils nous livreront ensuite leurs expériences et leurs questions en ce qui concerne la façon dont ils vivent le partage de l'information sur leur lieu professionnel. Enfin, nous réserverons, comme pour la première table ronde, un temps pour répondre à vos questions. Et c'est Martha Juillet-Coste, qui est formateur à l'IFTS, qui va animer ce temps avec la salle. Et Chantal aussi aidera. Voilà. Bon, Magali, est-ce que vous voulez vous présenter rapidement? Oui.
Donc, je m'appelle Magali Fabre et j'interviens actuellement au service social des malades du CHU de Grenoble.
Donc Jean-Pierre Martin, je suis enseignant, professeur des écoles, conseiller technique sur la politique de la ville et la lutte contre les discriminations à l'inspection académique de l'Isère. Alors, je vais faire un peu plus long, excusez-moi. Je voudrais remercier les organisateurs de ce colloque et les collègues de l'inspection académique de m'avoir invité. Moi, enseignant, non formé, n'ayant pas baigné dans la culture, mais... Je m'empresserai donc à la sortie de ce colloque de tout dire, de ce qui s'est dit aujourd'hui. Sauf que je me rappelle que je suis fonctionnaire, donc je ne dirai pas tout. Je dirai que ce qui est utile au travail autour de ce dont je parlerai tout à l'heure. Et vous avez une chance énorme, je ne bois pas de café.
Lucien Piola, je suis... Alors je suis peut-être l'intrus de cette table ronde, si on faisait le jeu... Je suis là non pas comme professionnel, ni comme ancien professionnel, je suis là au titre de ma responsabilité actuelle, qui est celle de président d'une association qui s'appelle La Relève. Et comme président d'association, cette question me compte beaucoup, beaucoup pour moi, parce que qu'offrait une association, quelle crédibilité aurait-elle si elle ne se souciait pas de la place des usagers et aussi du projet du respect de l'usager. Donc je suis très concerné par cette question.
Oui, Alain Billa, donc directeur de la même association dont le président vient de parler, donc association La Relève. Rapidement, c'est 800 personnes prises en charge en difficulté, trois secteurs, un CHRS pour hommes, un secteur insertion pour des anciens demandeurs d'asile et un gros secteur pour demandeurs d'asile dont vous avez un peu entendu parler, je pense, il y a quelque temps. Donc j'en profite juste, on ne s'est pas mis d'accord, mais je le dis, je voulais simplement faire un point très rapide sur la situation. Je voulais d'abord remercier l'ensemble d'entre vous qui ont signé la pétition, effectivement, par rapport aux difficultés qu'on a actuellement. C'est à peu près 2000 signatures qu'on a récoltées et qui ont été transmises donc, au préfet du département. Au jour d'aujourd'hui, les choses avancent tout doucement, mais vraiment tout doucement, et rien n'est encore gagné, mais rien n'est perdu. Donc je pense qu'on reste en veille, et j'espère qu'on n'aura pas besoin de faire appel à nous, à vous, mais bon, affaire à suivre. Mais on n'est pas là pour parler de ça. Je suis anciennement éducateur spécialisé, je le dis, parce que dans ma formation, c'est important. Et puis l'IFTS, ça me rappelle des souvenirs, parce que je sors de l'IFTS quand même.
Voilà. Donc, je vais me tourner vers Magali. Alors, vous êtes une jeune professionnelle. Au CHU, vous travaillez avec une équipe médicale. Chaque jour, avec le personnel soignant, vous partagez de nombreuses informations concernant la vie des malades et leur traitement. Alors, en vue, vous nous avez dit, de l'efficacité d'une prise en charge ou d'une orientation tout aussi efficace. Alors, quelles difficultés rencontrez-vous et quelle position prenez-vous par rapport aux éléments qui ont été évoqués ce matin ?
Voilà, alors je vais donc essayer d'illustrer un petit peu quelle position et quelles difficultés pour tenir cette position par rapport au partage de l'information au sein du contexte hospitalier. J'interviens donc en milieu hospitalier au sein du service social des malades du CHU de Grenoble depuis moins d'un an. Je me suis présentée à la préparation de cette table ronde avec plus de questions à poser que de réponses à apporter quant à la posture, permettant d'échanger dans nos équipes de travail avec les autres institutions et ce, dans le respect de la vie privée des personnes. Je suis déjà convaincue de la nécessité de partager certaines informations confiées par les personnes et quand cette transmission permet effectivement l'accès aux droits ou à un dispositif d'aide sociale et rend ainsi plus efficace notre action, notre intervention. À l'hôpital, le partage a lieu quotidiennement. Il est organisé différemment selon les unités médicales, selon la nature même des informations qui sont partagées. Pour l'assistante de service social, les échanges avec l'équipe médicale sont souvent organisés autour d'une rencontre hebdomadaire, dit le staff. La rencontre avec la personne concernée a lieu ensuite. Cette concertation avec le corps médical est essentielle. Par exemple, quand on intervient auprès d'une personne en perte d'autonomie pour l'aider à organiser son retour au domicile ou une recherche de lieux de vie médicalisés et adaptés. Ces dispositifs et structures d'accueil sont sollicités à partir d'une évaluation médico-sociale et supposent donc la mise en commun de plusieurs évaluations pour proposer des orientations qui sont cohérentes et adaptées et permettre à la famille de prendre en effet une décision éclairée. Le partage de l'information au sein de l'équipe et la transmission vers d'autres institutions peut donc intervenir dans l'intérêt du patient quand il lui permet effectivement d'accéder à ses droits, d'accéder à des soins et de rendre plus efficaces les différentes interventions des différents intervenants en fixant des objectifs communs et en favorisant une meilleure connaissance des objectifs fixés avec la personne par chaque intervenant. Ce souci d'efficacité, cependant, ne doit pas primer sur la garantie du respect de la vie privée de la personne et du respect de sa place dans le choix de ses objectifs. Cependant, je me trouve parfois en difficulté dans la réalité quand je suis dépositaire d'une information médicale sans que la personne ait été informée du partage d'informations ou même parfois des derniers éléments médicaux la concernant. Ou lors d'échanges avec des partenaires que je connais peu et dont j'ignore quelle importance auront telle ou telle information et comment elles seront ensuite utilisées. Nous avons eu l'occasion, lors du travail préparatoire, d'aborder également la difficulté face à laquelle on se trouve de cette tendance à se dévoiler, à être transparent, à en dire beaucoup pour obtenir de l'aide en oubliant parfois les répercussions que peut avoir une information médicale, par exemple, dans le cadre de l'emploi. Quelle posture éthique adopter alors face à la difficulté de concilier le respect de la relation d'aide qui est soumise au secret professionnel et cette nécessité de transmettre ? Un premier élément de réponse se dégage des constats précédents qui ont été également évoqués à plusieurs reprises ce matin. Seule l'information nécessaire à la poursuite d'objectifs communs est utile et cette nécessité est à interroger systématiquement avec la personne concernée lorsqu'on décide ensemble des actions à engager. Repérer les interlocuteurs, leur intérêt, me paraît également important, mais suppose de connaître les différentes institutions, leur histoire, leurs contraintes, leurs enjeux entre elles. Beaucoup d'éléments qui s'appréhendent, je le pense, avec de l'expérience et avec le soutien des réflexions en équipe de service social et avec les réflexions auprès de l'institution et la hiérarchie. Se pose également la question de la manière dont les informations personnelles sont échangées et des outils qui se trouvent à notre disposition. Au CHU, un dossier social personnel informatisé a été mis en place. Il est partagé au sein du dossier médical du patient et peut être consulté par l'équipe médicale et administrative. Cet outil repose donc la question du partage des informations à caractère social et une réflexion est en cours au service social des malades. Le risque est, à mon avis, de rendre ce partage systématique, loin du questionnement sur l'utilité et l'information, la participation du patient sur la transmission d'éléments confidentiels. Il me semble donc qu'il est nécessaire de construire des stratégies de communication qui permettent de tenir compte des risques inhérents au partage des informations personnelles. C'est-à-dire, il reste à vérifier systématiquement si la personne est au courant des transmissions d'informations et si elle y consent. Cette garantie, c'est d'aborder, à mon avis, les informations et ce partage d'informations avec la personne avant de l'aborder en équipe. Quelle est l'information qui est demandée, effectivement ? Quelles sont les informations utiles aux partenaires en rapport avec l'objectif commun fixé par la personne ? Avec qui communique-t-on ? Peut-on avoir confiance ? Cet interlocuteur est-il soumis au secret ? Quelle utilisation, surtout, pourra ensuite être faite de ces données personnelles ? Une fois ces principes réaffirmés, il faut encore réussir à les mettre en œuvre lorsqu'on intervient dans une équipe composée de plusieurs professions, ayant chacune un cadre déontologique fixé au regard des missions, des fonctions de cette profession. Même si les informations sociales et médicales ne sont pas de même nature, et même si le positionnement éthique des différents professionnels intervenant autour de la personne sont différents, il est possible, il me semble, de se donner une base commune. Dans le cadre donc du milieu hospitalier, je rappellerai l'existence d'une circulaire santé-justice datée de juin 96, qui encadre la transmission d'informations médicales et que je vous propose de lire maintenant. Il convient donc dans cette hypothèse, c'est-à-dire celle du partage, de ne transmettre que les éléments nécessaires, de s'assurer que l'usager concerné est d'accord pour cette transmission, ou tout au moins qu'il en a été informé, ainsi que des éventuelles conséquences que pourra avoir cette transmission d'informations, et de s'assurer que les personnes à qui cette transmission est faite sont soumises au secret et ont vraiment besoin, dans l'intérêt de l'usager, de ces informations. Ce travail m'a donc permis de réaffirmer certains principes pour me permettre d'adopter un fonctionnement responsable lors des échanges professionnels, notamment au sein des équipes médicales qui sont astreintes aux mêmes principes. Le partage est nécessaire dans l'intérêt des personnes, mais des inquiétudes persistent et semblent partagées, liées pour une part à la complication des échanges et à la difficulté de garantir le respect des vies privées sur un long terme.
Bien, merci beaucoup Magali pour cet exposé. Voilà, il faut respirer maintenant, c'est passé. Bon, je vais me tourner vers Jean-Pierre. Alors, c'est vrai, nous avons entendu Magali exprimer la nécessité de bien encadrer le partage de l'information pour respecter l'intimité du patient. Alors, vous, en interne, avec les partenaires, vous avez travaillé à l'élaboration d'une charte de bonne conduite pour tous les membres du dispositif de réussite éducative dans le département de l'Isère. C'est un peu long, mais voilà. Pourquoi cette charte et à quelles attentes ou à quelles inquiétudes répondait-elle?
Merci. C'est bien en termes d'attentes et d'inquiétudes d'ailleurs que ça se situe. Je ne reviendrai pas sur le dispositif de réussite éducative. Ce matin, il a été évoqué. Son principe global, c'est d'apporter de la remédiation personnalisée auprès de jeunes entre 2 et 16 ans et ou leur famille. C'est un texte qui vient du ministère des Affaires sociales, loi Borloo, donc loi de cohésion sociale de 2005. Ce texte met en place ces dispositifs-là, puis il insiste quand même sur deux points. Le premier qui explique ma présence ici, c'est que le texte dit que le préfet doit installer ça en partenariat étroit avec l'inspecteur d'académie. Dans l'Isère, le préfet a choisi de demander à l'inspecteur d'académie d'être son conseiller technique sur le sens du dispositif. Et l'inspecteur d'académie a demandé à quelques-uns de ses fonctionnaires de faire ce travail-là. Donc c'est pour ça qu'en dehors d'être conseiller technique à l'inspection académique, je suis aussi référent de l'État sur la thématique éducation des contrats urbains de cohésion sociale. Parce que ce dispositif de réussite éducative, il ne se met pas en place sur tous les territoires. Il se met en place sur les territoires de la politique de la ville et en particulier sur les territoires qui sont en contrat urbain de cohésion sociale. Enfin, à part exception près, et comme il y a toujours des exceptions à la règle, l'Isère n'y fait pas un croche à ça. L'autre chose qu'il dit, le texte, c'est que le préfet devra favoriser l'élaboration de chartes de partage d'informations. Parce qu'effectivement, dans ses préconisations, ce texte dit que pour définir les dispositifs de remédiation, on doit mettre en place des équipes pluridisciplinaires de soutien. Et il indique même, ce texte, qui peut participer à ces équipes pluridisciplinaires de soutien. Il y a donc les enseignants, je commence mal, mais voilà, les coordonnateurs ZEP ou REP, les éducateurs, les animateurs, les travailleurs sociaux et médico-sociaux, les psychologues et les pédopsychiatres, les rééducateurs, les intervenants sportifs et culturels. Tous ces gens-là autour d'une table pour parler du cas d'une famille ou d'un enfant, ça révolutionne pas mal de choses. Donc, il fallait garantir ceci. Et on a pu voir qu'assez rapidement, sur les territoires qui mettaient en œuvre ces DRE, il y avait des positions un peu crispées autour des participations des uns ou des autres. Ensuite, aussi sur le territoire, la métro, en partenariat avec l'IFTS et l'État, a organisé en mars 2006, à l'IFTS, un colloque qui était déjà sur le partage de l'information. C'était Monsieur Marcus, magistrat délégué général du Forum français, qui intervenait. Parce qu'on savait très bien qu'en mettant en place ceci, on allait s'affranchir, en tout cas on était confronté à ce dispositif. Et nous, je dis nous, parce qu'à l'époque nous étions quatre à l'inspection académique, qui avons un petit bout de mission sur la politique de la ville, il nous a semblé important que l'État, qui demandait aux communes de se lancer dans la mise en œuvre du dispositif de réussite éducative, l'État mette en place un contexte favorable à cette mise en œuvre. Et c'était bien à l'État commanditaire de garantir la possible mise en œuvre sur le territoire et de ne pas tout laisser aux porteurs. Donc nous avons fait la proposition au préfet de lancer un travail comme ça sur le département, et gentiment le préfet a dit que l'inspecteur d'académie pouvait s'en charger très bien. Voilà. Alors nous avons une chance quand même, nous, à l'éducation nationale, c'est qu'il n'y a pas que des enseignants. Il y a aussi des professionnels du secteur santé et social. On a des médecins, des infirmières, des assistantes sociales. Certes, toutes ces personnes-là, en nombre, pas suffisamment nombreux de certains points de vue. Mais n'empêche, il y a des compétences. Et que, avant de lancer un quelconque travail, nous avons fait une petite réunion interne d'où nous avons sorti, vous allez voir les précautions, une sélection d'éléments potentiellement constitutifs d'un protocole partenarial départemental d'échange d'informations. C'est comme quoi on a bien intégré le fait qu'on n'était pas très bon là-dessus nous-mêmes. Histoire de faire ce qu'on dit un document martyr, à partir de quoi travailler. Ce document, on l'a envoyé aux partenaires incontournables qu'on a dans le département quand il s'agit de parler de protection de l'enfance. C'est le Conseil général. Donc, avec le Conseil général, nous nous sommes rencontrés. Nous avons élaboré, conjointement, avec différents services du Conseil général, d'ailleurs, il y avait l'ASE, le service éducation jeunesse, et puis, je crois, le service social, il me semble. Enfin, il y a trois services concernés au niveau du Conseil général. Nous avons élaboré un nouveau document martyr, partagé entre nos deux institutions, pour le proposer ensuite aux autres services de l'État, mais là on n'avait pas trop de soucis parce que le préfet était derrière nous, mais pour le proposer aux CAF aussi, parce qu'à l'époque, les CAF, en tout cas celles de Grenoble, avaient encore quelques assistants de services sociaux sur les territoires, et puis aux porteurs, aux collectivités locales qui portaient les dispositifs, parce que c'est eux qui mettaient en œuvre. Donc il fallait bien qu'eux partagent cette charte de partage d'informations. Ça a été assez, je crois, assez facile de faire partager ces données, d'autant qu'il n'y avait rien de révolutionnaire. On faisait référence au droit, alors au droit avant 2007, à l'époque, et on répétait certains principes généraux dont on avait dit qu'ils étaient intangibles, mais on ne l'a pas écrit. Je vais vous les lire et vous verrez qu'il n'y a rien de sensationnel, en tout cas, et tout se réfère au droit. D'ailleurs, dans la charte, les textes de référence sont mis en annexe. Donc, premier principe, les parents sont les premiers éducateurs de l'enfant et par là les premiers dépositaires de la responsabilité éducative. Comme on est sur un dispositif de réussite éducative, ça paraissait mieux de le dire quand même. L'enfant a droit à l'éducation sur la base de l'égalité des chances et il a aussi le droit d'être protégé. Tout enfant ou toute famille pris en charge par les équipes pluridisciplinaires de soutien doit être respecté dans sa vie privée, son domicile, sa correspondance et sa culture. L'enfant et la famille accompagnée sont les acteurs centraux de la démarche. Les parents devront donner un accord écrit avant toute discussion de diagnostic concernant leur enfant. De la même façon, leur adhésion est nécessaire pour toute proposition de suivi. Alors là, on sait qu'à la mise en œuvre, il y a quelques souplesses qui se sont autorisées sur certains territoires. La règle du secret des délibérations guidera les échanges entre les partenaires dans le respect du secret professionnel, social, d'instruction et médical. Le respect des principes énoncés ci-dessus s'impose tout au long de l'accompagnement d'un enfant ou d'une famille et au-delà. Ça nous paraissait important de dire ça parce que on se met assez facilement d'accord quand il s'agit de commencer une mise en œuvre. Et puis avec le temps, et comme on sait que l'accompagnement, ça peut durer un certain temps, avec le temps, les principes s'effilochent sous les coups de boutoir des pressions X ou Y, ou de l'habitude. Donc il nous paraissait important de le dire, et de continuer à le dire actuellement d'ailleurs, que ça doit être, on doit être vigilant là-dessus. Enfin, le dernier principe qui fait référence à des choses qui ont déjà été dites ce matin,
La participation au dispositif de réussite éducative sur un territoire communal nécessite la mise en place de règles de fonctionnement écrites. Et dans ces règles de fonctionnement écrites, il y en a une qui se rapporte à la place de l'écrit dans le fonctionnement des équipes pluridisciplinaires de soutien. La gestion de l'écrit doit être établie selon des règles précises et intangibles faisant l'objet d'une rédaction unanimement approuvée par l'ensemble des partenaires dans le cadre du fonctionnement local. La définition de ces règles s'oriente autour d'un rapport de présentation écrit préalable à l'examen de la situation, d'un compte-rendu des échanges verbaux du réseau d'acteurs, il pourra s'agir d'un simple relevé de conclusion, de la mise en place des modalités de traitement et de conservation de tous les écrits précités, durée, détention, transmission, archivage ou destruction. Et enfin, de l'accès de l'usager à tous ces documents écrits. Donc voilà pour la charte. Alors, effectivement, nous avons porté, nous, référents de l'État, mais aidés en cela par les collègues du Conseil général qui suivent ces dossiers, systématiquement, auprès des porteurs, cette charte sur le partage d'informations et le fait que localement, elle devait aussi proposer une définition un peu plus précise des règles de fonctionnement. Si on a fait ce travail-là, effectivement, on avait deux objectifs. Si on a fait ce travail-là avec le Conseil général, entre autres, ou avec les CAF et les services de l'État, on avait bien deux objectifs. Un, sécuriser, mais deux, inciter. Sécuriser les personnels de nos institutions, parce que les décideurs signant cette charte de déontologie, le président du Conseil général, le préfet, l'inspecteur d'académie, donc chacun a des personnels là-dedans qui travaillent, mais aussi les présidents de GIP ou les maires des communes pour leur personnel qui sont mêlés à ces dispositifs, qui sont donc soumis au secret professionnel par mission, cela parce que les professionnels qui travaillent là-dedans ne sont pas forcément des assistants sociaux tout le temps. Donc on avait bien ce souci de sécuriser le travail des agents. Mais en même temps, l'inspecteur d'académie, le préfet et le président du Conseil général, en signant cette charte-là, ils disaient aussi « Nous, nous souhaitons rentrer dans ce dispositif et faire en sorte que nos équipes soient présentes dans ces structures d'équipes pluridisciplinaires de soutien. » Donc, par la même signature, on incitait, et on incite toujours, nos personnels à participer à ce travail. On est bien sur le double objectif de départ. C'est bien ça qui a guidé notre travail, nous, référents de l'État, c'était bien ça que l'on voulait, au titre de l'État, sécuriser, mais inciter aussi. Parce qu'en tant que donc référent de l'État, notre objectif, c'est bien que le dispositif se mette en route sur le territoire, en y mettant les garanties derrière. Alors ça, c'est un travail, certes, qui s'est fait courant 2006, mais c'est un travail qui est à refaire. Là, en ce moment, on est en train de retravailler le contenu de la charte pour actualiser d'une part les nouveaux entrants, mais aussi actualiser avec les nouveaux textes dont vous avez parlé ce matin de 2007. Et je me dis que peut-être dans la charte, il y a quelque chose qui manque, qu'il faudrait que peut-être qu'on retravaille là-dessus, c'est remettre les petites définitions de qui est soumis au secret professionnel, dans quel cadre, par mission, par profession ou autre, et que peut-être ça simplifierait les choses localement. Mais en tout cas, c'est quelque chose que nous continuons à questionner chaque fois que nous allons dans des comités techniques. Je le dis bien avec les collègues du Conseil général parce qu'on fonctionne bien vraiment main dans la main sur ce sujet-là. Chaque fois, nous interrogeons les porteurs sur comment vit la charte de déontologie, comment vit le règlement intérieur. Est-ce que les nouveaux entrants, on leur relit, on leur refait signer ou pas? Parce qu'on sait bien que les comités techniques ou les équipes pluridisciplinaires de soutien, en 3 ans, eh bien, il y a des départs, des arrivées. Les fonctionnaires territoriaux ou autres changent, mutent. Et il faut bien que ces gens-là, les nouveaux entrants ou les nouvelles professions, les nouvelles fonctions qui se font jour avec ce dispositif, soient bien aussi dans la charte de déontologie, dans le respect des textes proposés par cette charte-là. On y reviendra peut-être dans la discussion, mais voilà. Donc c'est toujours une préoccupation, et je peux vous dire que ce n'est pas parce que la charte est écrite que derrière, les choses se mettent en place comme définies par la charte et par les textes. Mais ça, vous le saviez déjà.
Bien, merci pour cette intervention. Donc c'est d'une autre place, mais aussi c'est sur un sujet du partage d'informations. Alors, Lucien Piola, Alors, vous partagez, vous êtes en responsabilité auprès des publics en grande difficulté. Et lorsque nous avons préparé cette table ronde, vous nous disiez que le partage de l'information, de certaines informations, était vraiment indispensable pour permettre à ces personnes qui n'avaient pas beaucoup de droits et qui quelquefois étaient sans droits, d'en acquérir quelques-uns, de pouvoir se soigner, de pouvoir se loger. Alors, on va vous poser une question. Comment conciliez-vous le partage de l'information et le respect de la vie privée des usagers ?
Vous avez bien posé la question. Alors, je ne sais pas si c'est le président uniquement qui parle, entre autres, mais c'est aussi le citoyen, c'est aussi le retraité. Et dans ma vie, il n'y a pas d'un côté des objectifs que je cherche et puis d'autres objectifs complètement différents. Pour moi, il y a une unité énorme. Comme personne retraitée, eh bien, je suis dans la bagarre, dans la lutte, aussi pour que les personnes âgées soient maîtres de leur vie et de leur projet de vie jusqu'à leur mort. Vous voyez pas comment ça se tient, tout ça ? C'est jusqu'au bout que ça nous concerne. Alors bien sûr, il est important de partager des infos, mais il faut le faire dans la toute transparence vis-à-vis de la personne. Pour moi, dans l'association, c'est essentiel que la personne sache et soit d'accord sur ce qu'on va partager. Parfois même, elle peut demander du partage et on peut éventuellement le refuser, mais il faut lui expliquer pourquoi on refuse de divulguer tel ou tel aspect de sa vie. Ça peut arriver. La transparence doit être aussi nécessaire vis-à-vis des services auxquels on s'adresse et qu'ils sachent qu'on ne divulgue pas tout de la personne et on ne communique que ce qui leur est absolument nécessaire. Et donc, c'est mon deuxième point, ce qui est diffusé doit tenir compte de la spécificité du partenaire. Dans l'association, nous avons des partenaires multiples. Nous avons aussi bien des partenaires sociaux, partenaires médicaux, mais aussi des partenaires administratifs importants qui sont, par exemple, les services des étrangers de la préfecture. On ne dit pas la même chose à une assistante sociale de secteur ou à un service préfectoral. Il faut l'apprendre. Il faut mesurer donc ce que chacun a besoin, ce dont chacun a besoin pour faire son travail. Et l'attitude vis-à-vis des partenaires doit être professionnelle et non affective. Et ça demande parfois un changement de notre regard. Travailler avec le service des étrangers de la préfecture, c'est important, c'est nécessaire pour les personnes qu'on accompagne, mais on n'est pas dans le bien ou dans le mal. Il n'y a pas les bons d'un côté, les méchants de l'autre. Il faut savoir travailler avec les services auxquels les personnes s'adressent. Et on nous a parfois un peu traités de SS, parce que, pourquoi pas, je l'ai entendu, parce que nous travaillons avec des services qui suivent les personnes que nous accompagnons, c'est-à-dire les demandeurs d'asile. Donc il faut mesurer en professionnel, et là j'insiste beaucoup, on n'est pas dans le « je t'aime ou je te hais ». Le rôle de chacun est de déterminer au plus juste de quelle information il a besoin pour faire son travail. Un autre point, c'est qu'il faut prendre en compte la globalité de la personne, nous, association, pour ne pas la saucissonner suivant les interlocuteurs. Ce qui ne veut pas dire qu'on va tout dire à l'autre, mais il faut aider la personne devant la multiplicité des demandes à laquelle elle doit faire face, ou des services, aider la personne à retrouver son unité, à être actrice de sa propre vie. Et ça, ça ne veut pas dire qu'elle va déballer sa vie jusqu'à l'impudeur. Il faut qu'elle sache aussi, elle, toujours garder sa dignité. Et donc, l'intime de la personne n'est pas à dévoiler, sauf si la personne le souhaite, et encore faudrait-il analyser pourquoi elle le souhaite, et qu'elle-même soit claire, au moins un tout petit peu, si c'est possible, sur ce pourquoi, parce qu'il n'est pas forcément positif. Et là, moi, je m'interroge beaucoup, comme citoyen, je fais des liens à la façon dont on traite l'intimité des citoyens, dont nous, ou des citoyennes dont nous sommes, dans notre société. Pour obtenir quelque chose, il faut essayer de conquérir l'autre, de la pâter, de lui plaire. Et pour lui plaire, je vais me livrer moi-même. Et là, il y a quelque chose, je trouve, de très indécent, de très malsain et de très dangereux. Nous sommes dans la séduction. Et notre société nous y incite un peu, et pour moi, c'est une dérive grave. Il suffit de voir tout le phénomène de la télé-réalité, où on va même jusqu'à nous expliquer que la thérapie à la télé, c'est une façon de se soigner. On est dans une aberration la plus totale. Il peut arriver, mais très rarement, que des partenaires soient en danger à cause d'un fait relevant de l'intime. En ce qui nous concerne, moi j'ai noté au moins une situation ou un cas, c'est quand la personne, par exemple, a la tuberculose. Et c'est vrai qu'avec l'accord de la personne, il est alors peut-être nécessaire de le révéler aux services concernés pour que les précautions soient prises. Chose que nous faisons nous-mêmes auparavant en termes de prévention. Voilà quelques petites réflexions ou cadres qui me semblent fondamentaux dans ma responsabilité globale vis-à-vis de l'association. Je voulais, et ça fait référence, ça va peut-être faire redite, mais dans ma tête, il y a divers cadres aussi qui doivent être posés dans une association. Il y a la loi écrite, nous en avons parlé ce matin, il faut l'appliquer, il faut en dégager l'esprit et la vivre. Ensuite, il y a des cadres que l'établissement ou l'association doit poser. Ils ne sont pas forcément tous écrits, et nous ne sommes pas tous des fortiches pour faire des écrits, y compris dans les associations. Mais il faut déterminer quand même ces cadres et être d'accord sur ce qui peut se dire dans chaque lieu. Et dans chaque lieu, ça doit être différent. Alors, il peut y avoir la rencontre café, on en a parlé ce matin. Oh, il y a la rencontre couloir aussi. Hein. Mais il y a aussi le cahier de liaison, il y a la rencontre de service, il y a les réunions avec d'autres partenaires, il y a la supervision. Et par rapport à ces cadres, il me paraît fondamental que nous soyons clairs sur leur rôle et la façon dont nous les utilisons. Ce qui est nocif, c'est le mélange des uns et des autres. Je crois qu'il faut que nous arrivions, là où nous travaillons, à une clarté nécessaire pour que tout fonctionne du mieux possible. Et dans l'institution, il faut s'habituer aussi avec les autres partenaires, s'obliger à déterminer des critères qui fondent les décisions vis-à-vis des personnes pour ne pas prendre des décisions sur des aspects subjectifs et affectifs uniquement. Je crois que là, moi, la demande de clarté que je fais, elle s'enracine là et c'est, me semble-t-il, un élément essentiel pour le respect de la vie des personnes. Je pense que j'en ai assez dit. Je n'ai pas trop loupé de choses, mon cher directeur. Je vous remercie.
Merci beaucoup.
Alors, on va tout de suite enchaîner sur des questions. Je pense que je n'ai pas grand-chose à rajouter pour l'instant et que la salle sera plus intéressante. Donc, on va faire passer le micro. Levez vos mains.
Donc moi j'ai d'abord une petite remarque, monsieur Martin, je ne sais pas si ça vous rassurera, on ne disait pas que l'éducation nationale n'avait pas de culture, ça serait quand même un comble, simplement qu'il nous semblait qu'il y avait quelque chose à créer en commun. On a très peu de temps où justement, enfin ça je pense que ça se crée au niveau de la formation, on a très peu de temps où ça peut se faire, c'est aussi du travail ensemble mais c'est plus long à mettre en œuvre il me semble, et des fois on a besoin que ça puisse être assez rapidement opérationnel, et je pense que là-dedans il y a des choses à faire. L'IUFM va se refondre, donc on va peut-être avoir des possibilités de ce côté-là. Et moi j'avais aussi une petite question, enfin quelque chose qui me semblait important sur lequel je voulais revenir, c'est la question de la transmission et de l'information à l'usager qui est faite de cette transmission. Moi il me semble pas qu'il faut absolument l'accord de ce qui est transmis, par contre il faut l'information, et je pense pas que informer l'usager, c'est forcément avoir son accord. En tout cas, bien, il y a des choses sur lesquelles ils ne seront pas d'accord. Il y a des informations qu'on aura envie de transmettre, à mon avis, sur lesquelles ils ne seront pas forcément d'accord, mais qui seront quand même importantes, parce que justement, ben, c'est des choses qui pourront être qualifiées, on va dire, d'informations préoccupantes, en tout cas de choses à partager. Tout est dans l'accompagnement, parce que ce matin, on a beaucoup parlé d'informations. Moi, je me dis, informer, c'est bien, mais après, la question, c'est comment on accompagne cette information du début jusqu'à la fin, et comment on accompagne l'usager dans la compréhension de ces informations. Et comment, du coup, on informe l'usager dès le départ du processus dans lequel il met les pieds avec nous. Et qu'on va rester à ses côtés, mais en tout cas, il met les pieds dans un processus, il faut bien qu'il soit informé de tout ça, et aussi des dérives, du coup, que ça peut avoir. Et c'est en ça, peut-être, qu'on va l'aider à reprendre possession de sa parole et du coup, on parlait de contenant ce matin, et la collègue a parlé à un moment donné de l'aider à contenir certaines choses. C'est peut-être en ça qu'on peut les aider aussi à se réapproprier leur vie, leur intimité, et des fois ce qui fait la base de leur dignité qu'ils n'ont plus toujours.
Oui, ok, au moins que l'usager, pour certaines décisions au moins, que pour le moins il soit informé. Et pour l'accompagnement, c'est effectivement... Je donnerai la parole à Alain s'il le désire. Pour l'accompagnement, c'est quelque chose pour effectivement fondamental pour la relève. Cet accompagnement qui se fait, y compris dans des décisions graves pour les personnes, qui peuvent être des décisions de quitter le territoire, de refus de la part d'accueil de la part de la France, et donc. Nous réfléchissons beaucoup sur le fait d'accompagner les personnes, y compris dans ces situations difficiles pour elles, même si nous sommes pas forcément d'accord sur la décision qui a été prise. L'accompagnement ne veut pas dire qu'on soit d'accord avec telle ou telle décision administrative. Il veut dire que nous sommes avec la personne et que nous l'accompagnons quoi qu'il en soit.
Ce que je veux simplement rajouter, y compris par rapport à ce qui vient d'être dit, je crois qu'effectivement il y a un certain nombre de situations, de cas où on n'obtient pas obligatoirement l'accord de la personne pour divulguer une information. Je crois que toute la question qui se pose à ce moment-là, et c'est ce que vous avez soulevé, c'est pourquoi effectivement une personne ne serait pas d'accord pour divulguer telle information ? Qu'est-ce qu'on a fait effectivement pour essayer de l'informer sur l'importance de cette divulgation ? Et je crois que là, il y a un gros travail à faire à ce niveau-là. Par rapport à ce que vient de dire Lucien, moi j'ai envie de rajouter, à un moment donné, faut replacer là où sont les responsabilités. Moi, ma responsabilité en tant que directeur, qui gère une équipe, donc effectivement, de travailleurs sociaux entre autres, parce qu'on n'en a pas parlé ce matin, mais il y a aussi toutes les équipes techniques, etc., ou qui ont aussi besoin d'informations par rapport au public qu'on prend en charge. Quand on accompagne une personne, on l'accompagne jusqu'au bout. En tout cas, c'est notre position au niveau de l'association, y compris, puisque Lucien parlait des demandeurs d'asile, y compris quand une famille est déboutée de sa demande et peut être reconduite, alors on ne va pas rentrer dans les détails, hein, d'accord, mais peut être, la préfecture peut décider de la reconduire. J'ai envie de dire, est-ce que notre travail, ce n'est pas effectivement d'accompagner la personne jusqu'au bout, mais la responsabilité, ce n'est pas nous qui l'avons. Est-ce que notre responsabilité, y compris dans le passage de l'information, ce n'est pas en lien avec les services de l'État de faire en sorte que cette reconduite, qui est quelque chose de très difficile pour la personne, bien entendu, le ménage, mais je crois aussi pour les équipes de terrain, c'est quelque chose qui est dur à vivre, surtout si on a en charge la personne depuis plusieurs années. J'ai envie de dire, est-ce que l'objectif n'est pas de faire en sorte que ces conditions-là se déroulent le moins mal possible, et donc en transmettant un certain nombre d'informations en accord avec la famille, effectivement, qu'on puisse obtenir des partenaires potentiels, et là notamment c'est les services des étrangers de la préfecture, y compris la police, puisque c'est quand même la police à un moment donné, de faire en sorte qu'elle mette en place des conditions qui permettent de reconduire relativement bien, vous permettrez l'expression, ces ménages-là.
Alors peut-être d'autres questions ?
Moi, j'avais une question par rapport à notre éthique, alors qui est un peu plus large que ce dont vous venez d'aborder. C'était comment se situer en tant que professionnel lorsque à notre travail se mêle la dimension du pénal, hein, où on a l'injonction de ne pas parler pendant un temps. Est-ce que vous avez compris ma question ou pas ?
Oui, qui veut répondre, du coup ?
Je vais peut-être essayer de répondre. L'injonction, je dirais que je vais essayer peut-être de repartir de la différence entre des infos sociales et des infos médicales, parce qu'elles sont toutes les deux soumises au secret. Mais ce qui me semble, par rapport au secret médical, ça a quand même des conséquences importantes. Et la loi, les circulaires que j'ai cités, fixent beaucoup mieux, encadrent beaucoup mieux le partage de ces informations. Bon, je ne sais pas bien. Par rapport. Je crois qu'il n'y a pas d'injonction. Enfin, en tout cas, moi, dans ma place à l'hôpital, il n'y a pas d'injonction. Je suis rarement confrontée à l'injonction, à l'obligation de communiquer. Mais plutôt, à mon avis, c'est plutôt l'inverse. On a l'obligation de ne pas communiquer et des exceptions ensuite. Parce que de ce qu'on aura convenu avec les personnes. Et je pense que notre positionnement, il est là. Et il est aussi d'essayer dans les équipes de trouver des positionnements communs qui ne sont pas liés seulement à une seule profession, mais plutôt à un travail d'équipe autour et auprès des personnes et de les aider à participer à ces décisions.
Je veux bien compléter, essayer de compléter en tout cas. Sur des injonctions, notamment au niveau du pénal, sur le silence, que c'est ça que vous posez comme question derrière. Oui, effectivement, on peut être confronté à ça. Après, moi, je poserai la question de l'institution. C'est qui est confronté à ça ? Qui a la responsabilité ? Moi, très concrètement, au niveau de l'association, j'ai des informations. Je suis les seuls à les avoir. Et on me demande le silence dessus. Effectivement. Et donc, je ne transmets pas effectivement ces informations-là aux travailleurs sociaux, au personnel, etc., etc. Je suis les seuls à me le garder dans mon petit coin. C'est pas toujours facile à vivre, hein, je suis bien d'accord, suivant ce qu'il y a. Je dis simplement que les injonctions effectivement de silence, que ça vienne du pénal ou d'ailleurs, je crois qu'il y a un moment donné où on est en droit également. Alors, je dirais non pas à rompre effectivement ces injonctions, mais à les refuser. C'est lorsqu'effectivement ces injonctions peuvent amener des dangers, je dirais, par rapport à la personne, que ce soit la personne elle-même ou par rapport aux autres, que ce soit des salariés, que du personnel, des ménages qu'on accueille, etc., où on peut être effectivement confronté à ça. Je pense notamment sur des maisons d'enfants ou des histoires, des trucs comme ça, où je crois effectivement que c'est de notre responsabilité, quel que soit notre niveau, de dire à la personne qui nous impose cette injonction de silence, de dire « moi, je peux pas, je suis pas d'accord » parce que ça met en cause un certain nombre de choses. Et là, on retombe sur ce qu'on disait ce matin, il me semble, sur des questions de posture. effectivement, et d'acceptation. Je crois qu'on ne peut pas tout accepter dans notre métier. Ça, je crois pas, j'en suis sûr, en tout cas. Et je crois que c'est José qui parlait du Conseil national de la résistance ce matin, et Jacques, effectivement, résister. Oui, je crois qu'à un moment donné, non seulement on a le devoir de résister, mais je crois qu'on a aussi le devoir de se battre pour ne pas tout accepter. Et parfois, j'ai un peu l'impression, compte tenu de l'évolution de la société, qu'on cherche à faire endosser aux travailleurs sociaux un peu tout et n'importe quoi.
Est-ce qu'il y aurait d'autres questions ?
Oui. Elle me demande de nous réveiller, mais je ne vais pas y arriver. À midi, on a continué la discussion avec des collègues, et c'est vrai qu'un des collègues avec qui j'étais me disait, mais au fond, ce matin, on n'a pas parlé peut-être de l'essentiel, c'est-à-dire la relation à l'autre. Et à travers ce que vous dites, j'ai envie de revenir sur ce point, en me disant qu'au fond, quand on est en situation